Bonjour, ici Yves et c'est l'heure de l'interview sur Air Divois. Aujourd'hui, nous sommes avec Yves Bergeret. Bonjour.
Bonjour. Ah, nous portons le même prénom. Bonjour Yves.
Eh oui. Yves Bergeret, vous êtes artiste plasticien et vous êtes ici pour nous parler d'une exposition que vous proposerez le 30 janvier à Châtillon-en-Diois, à la bibliothèque de Châtillon-en-Diois, et pour une petite semaine jusqu'au 4 février. Vous y présenterez donc vos dernières œuvres et des poèmes également. On peut peut-être aussi parler de ce que vous proposez le vendredi 2 février à 18h, ça sera à la salle des mariages de la mairie. Et là, vous vous présenterez sur un travail récemment réalisé entre Briançon et Adi. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'on pourrait dire de vos œuvres, Yves Bergeret? C'est de la couleur, du mouvement.
Oui, s'il y a de la couleur et du mouvement, c'est que je reçois ce que l'espace propose et diffuse à satiété, vraiment. Bon, ces jours-ci, on était en novembre, et donc il y avait un ciel gris de la pluie, et les couleurs étaient éteintes. Mais dès que le soleil revient, et par exemple les levées de soleil extraordinaires qu'on a ici, les couchers de soleil, il y a vraiment une exaltation dehors de la couleur. Mais la couleur, c'est pas simplement des pigments, c'est vraiment un sentiment, c'est une expression, c'est quelque chose de lyrique, de très puissant. Mais les formes aussi, et les formes de la montagne, pour moi, parle, tant et plus. Alors, de la montagne, on a très souvent la vision que c'est une masse immobile, statique, inerte en quelque sorte, face à laquelle on éprouve un sentiment d'infini et d'extrême petitesse pour soi-même et un sentiment d'écrasement. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne perçois pas du tout la montagne de la sorte. C'est-à-dire que je suis le scribe de la montagne, je vais chez elle, je marche sur ses chemins, je vais sur ses crêtes, et j'écoute ce que le vent propose comme dialogue avec elle lorsqu'il les rafle la montagne sur les crêtes, j'écoute ce que le vent dit dans les pentes, dans les forêts dénudées actuellement, et je prends note de ça avec les couleurs et avec les mouvements. Alors, je suis complètement d'accord avec le mot mouvement que vous avez employé, parce que pour moi, la montagne, dans un temps autre que la perception du temps humain, mais dans un temps avec une évolution, avec des catastrophes, des évolutions lentes, des linéarités chaotiques, la montagne, elle a une vie et elle bouge sans cesse, à l'échelle de millions d'années. Mais pour peu qu'on soit détaché de la panique sentimentale ou de la projection immédiate de sa propre personne, on voit le mouvement de la montagne. Les éboulis disent le travail de la montagne. Le CLAPS dit partout le mouvement. Et à l'échelle du temps géologique, le CLAPS, c'est il y a un quart de seconde. Et ce qu'il y a de merveilleux dans notre vallée, c'est que comme c'est des roches sédimentaires tendres, les roches sédimentaires tendres plissent sous les pressions à l'échelle des temps géologiques longs. Et les plissements, on les voit très très bien. C'est une montagne souple qu'on a ici. Partout, ça se voit. Et c'est une jubilation d'être au milieu de cette montagne parce qu'on écoute sa vie.
Alors, ça se décline, ces couleurs, tous les propos que vous venez de citer sont en quelque sorte une expérience de ce que vous avez ressenti sur les montagnes du Diois notamment, et vous les transcrivez ensuite sur papier au travers donc de ces mouvements de couleurs, de gestes, et puis agrémentés de poèmes aussi. Pour vous, ces couleurs, est-ce qu'elles ont une signification ?
Elles sont totalement signifiantes. C'est-à-dire que le processus est de la sorte. Je respecte beaucoup les poètes en chambre, en quelque sorte. Les gens qui tiennent leur journal intime et qui le versifient, les gens qui écrivent des vers classiques, des strophes, etc., etc. C'est très bien. Il y a une grande tradition française et européenne à ce sujet. Mais moi, je ne procède pas du tout de la sorte. C'est-à-dire que je suis né en montagne, j'ai toujours vécu dans la montagne, et je pars dans la montagne. Je marche d'abord longuement. Quand j'étais jeune, je faisais des ascensions folles, quelquefois en Oisans, à Chamonix ou ailleurs. Donc je marche, j'évolue dans le souffle de la montagne, dans la puissance du surgissement géologique de la montagne et dans le fracas de ses éboulements. Et là, je prends note de ce qui se passe. Alors, dans mon sac à dos, j'emmène le matériel pour être vraiment le scribe à un endroit où je peux me poser. Et je développe le papier au sol, je le leste pour que le vent ne l'emmène pas. Et le poème commence tout de suite. C'est-à-dire, le poème, c'est la parole en acte, c'est la parole vivante, c'est la parole du lieu. Et le poème, je le réalise d'abord par le geste de couleur, comme un petit enfant qui réagit avec toute sa sensibilité extrêmement forte à la puissance du lieu, au confort du lieu ou à la crainte du lieu. Je suis comme ça. Ce que je perçois du lieu vient sous la forme d'un éclat de soleil jaune vif, un jaune d'or qui occupe toute une partie du haut de la feuille. Et puis, il y a aussi une ombre qui passe, où il y a des vautours qui passent. Et cette ombre qui passe, ça va être un trait d'encre de Chine ou de la vie d'encre de Chine que quelquefois je projette aussi. Et avec une relation que j'ai toujours dans ce travail-là, au sol, c'est-à-dire que je suis debout, je suis obligé de m'incliner. C'est pas la relation de l'atelier. La relation de l'atelier, c'est le bras qui est tendu vers le chevalet. La relation du graveur, c'est le poignet qui tourne au-dessus de la plaque de cuivre ou d'aluminium. Là, c'est tout le corps, après avoir marché, qui s'incline sur le grand papier que je pose au sol et sur lequel je mets d'abord la transcription par couleur et par geste de couleur du poème. Et au fur et à mesure que je pose la transcription animiste, infantile, symbolique, art brut, art naïf, de ce que le lieu me dit, les mots du poème, les mots de la maturité alphabétique, de la maturité d'un homme qui a dépassé la vingtaine, qui sait lire et écrire, qui manie le langage, etc., les mots viennent, et in fine, au bout de plusieurs heures de travail, comme ça, en espace, sur une vire, sur une crête, sous un surplomb, à la fin, j'écris à... En la vie d'encre de Chine extrêmement libre ou en écriture ordinaire, beaucoup plus lisible, ce qui a déjà été déposé par mon état d'écoute du lieu. Et le poème, au sens occidental traditionnel, d'un texte écrit que l'on lit, que l'on médite, vient finalement s'opposer avec les signes alphabétiques. Alors qu'en fait, il y a toutes les couches de poèmes qui sont là. Les couches d'un homme sans écriture, les couches d'un homme sensible à l'espace, les couches animistes, les couches chamaniques, si l'on veut, pour finalement arriver dans une formulation alphabétique.
Il y a en quelque sorte aussi un rapport avec l'héritage culturel, que ce soit au niveau du dessin, du graphisme et du texte. Est-ce que pour vous, il y a une nécessité de partir de rien, peut-être pour se retrouver et trouver ses propres sources d'écriture ou d'expression ?
J'ai oublié de dire que les papiers que je pose au sol sont des papiers de grand format. Et de très grand format même quelquefois. Les poèmes calligraphiés dans la méthode que je disais font 60 cm, 70 cm de large sur 215 de haut. Ça fait une grande porte quoi, d'entrée de maison. Et alors, ça n'est pas entièrement spontané ce que je fais, c'est-à-dire que je suis totalement à l'écoute du lieu, mon corps s'est fatigué pour aller jusque-là, mais je sais très bien ce qu'il en est de la pensée animiste, de la pensée symbolique, de la pensée mythique, de l'épopée qui invoque, convoque, met en forme le lieu. J'en lis beaucoup, je me réfère sans cesse dans mes lectures actuelles, depuis une dizaine d'années, à Eschyle en particulier, le poète tragique grec antique qui est d'une puissance dramatique et épique et animiste considérable, et je me réfère beaucoup à son Prométhée enchaîné. Et
qu'est-ce qui vous plaît dans ces textes d'Eschyle ? C'est son mode d'écriture, sa manière de décrire ou
ce qui me plaît dans le texte d'Eschyle, dans le Prométhée enchaîné en particulier, c'est la formulation qui est très directe, carrée, avec une force d'incantation et de convocation du réel qui est le propre de l'épopée. Et lorsque Prométhée est laissé seul, cloué en haut de la roche, il convoque tout l'espace. Et sa protestation humaine de son supplice, de cette tragédie de l'existence de quiconque, en fait, comme celle de Sisyphe, à une puissance d'incantation qui, restabilise le réel et essaie de lui donner un contrepoids. Et cette force de contrepoids, je crois que c'est la force du poème. Le poème, c'est quelque chose qui n'est pas une expression privée, individuelle, d'une larme continue, d'un deuil inconsolable qu'on vivrait. C'est d'abord un respect profond de l'énergie du monde et de l'énergie de la vie. Et cette énergie de la vie, elle est de couleurs, de gestes, d'actions.
Justement, cette écriture, ça me fait penser aussi aux peintures rupestres, quelque part. Donc, dans le berceau de la civilisation et de la culture de la civilisation. Et pour cela, je veux dire, on ne s'improvise pas non plus créateur dans ce style. Il y a un grand enrichissement culturel à connaître aussi pour comment... Trouver juste la juste écriture, peut-être aussi.
Il y a énormément à apprendre de la pratique rupestre extrêmement ancienne. Et puisque ce sont justement des gestes qui ne sont pas du tout des gestes esthétiques, ni des gestes gratuits, ni des gestes d'expression personnelle, ce sont des gestes graphiques, rituels, pour convoquer le réel, le stabiliser et le mettre en forme pour qu'il soit vivable et nourricier. Or, justement, ça je le savais, j'avais beaucoup réfléchi à ça depuis longtemps, mais j'ai décidé dans la décennie 2000, après avoir beaucoup travaillé dans les Antilles, avec des créateurs populaires, pas des créateurs académiques, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais après avoir beaucoup travaillé avec les enfants de la déportation esclavagiste, j'ai décidé d'aller carrément dans les montagnes du Sahel. Alors les montagnes du Sahel, ça n'existe pas, c'est du sable, c'est plat, sauf quand même... Certains endroits, des montagnes de grès, donc de sable en concrétion, isolées, et je suis parti seul là-bas, en 99-2000, dans les lieux très peu habités, où vivent des peuples dont certains sont bien connus par l'ethnologie, d'autres tout à fait mystérieux encore, parce que l'ethnologie ne s'est pas approchée d'eux, ou que eux-mêmes n'en ont pas voulu l'approche. Et donc je suis allé à la recherche dans un monde sans écriture, dans les montagnes, de ceux qui ont l'audace, ou la fonction rituelle déjà, ou l'audace d'innover en posant des signes. Et la première chose, et j'en ai trouvé finalement, après avoir beaucoup, beaucoup erré de ci, de là, et j'étais tellement admiratif de leur pratique, moi, poète de l'écriture, à main nue, ou plutôt juste avec mon sac à dos, arrivant seul là-bas, je suis arrivé dans des communautés montagnardes, de résistants dans les rochers, et progressivement, les gens de là-bas m'ont accepté. Alors, il y a eu un dialogue de création avec eux extraordinaire, qui a duré 10 ans, dans un village en particulier, dont je parle la langue maintenant, une toute petite communauté, et dont les produits, non pas sur papier, mais sur tissu, ont été abondamment montrés ici à Die dans les années, dans cette décennie de 2000 à 2010, et dans toute la région, et puis en dehors de France aussi. Mais c'est en dialoguant dans leur langue, qui s'appelle le Toro Tegu, et en observant sans cesse, au fil de longs séjours, avec un travail incessant de 6 poseurs de signes de cette langue, plus quelques autres de langues voisines, disons une dizaine de poseurs de signes, j'ai beaucoup appris sur le geste graphique qui est nécessaire, la prise de responsabilité qui est nécessaire pour oser poser un signe dans un monde initiatique de l'oralité. Et le monde de l'oralité, donc initiatique, est un monde secret. Mais la confiance a été gagnée de manière telle entre nous tous que finalement, il s'est mis en place cet usage que... Les poseurs de signes, des gens assez jeunes, le plus vieux avait 10 ans de moins que moi, ont eu l'idée, et moi j'ai eu l'idée en même temps qu'eux, que nous disions ensemble le lieu désertique dans la montagne où le vent, l'harmattan, le vent du désert très fort, passait en rafale. Mais la rafale, c'est un chant, c'est une incantation régulière de l'esprit du vent, de quelque chose qui va amener plus tard le nuage au moment de la saison des pluies et qui va amener la fertilité, la fécondité. Donc on salue le nuage, on salue le vent, bien sûr, et on s'associe à son mouvement. Eh bien, très bien, allez, on va le dire, on va le peindre ensemble. Mes chers amis, vous, par vos gestes graphiques, ceux que je vois sur les murs de vos maisons, quelquefois dans une grotte, et puis moi, je vais le faire aussi avec mes signes alphabétiques. Et ça a duré 10 ans, jusqu'à ce que la situation devienne beaucoup trop dangereuse, comme on sait dans le sud du Mali, dans le sud du Sahara plutôt, au Mali en particulier. Je n'ai plus la possibilité d'aller là-bas. Donc je continue cette pratique, bien sûr, mais en pensant sans cesse à mes amis du désert, qui sont des diseurs du lieu, dans leur pensée animiste extrêmement riche et très respectueuse, qui prend des risques progressifs de se montrer et qui se montre. Et moi, je le fais maintenant ici, voilà.
Juste une petite précision, est-ce que vous pouvez nous signifier le terme d'animisme ?
L'animisme, c'est une conception du monde et une pratique du monde considère que la réalité est faite de choses visibles et invisibles avec une dynamique continuelle d'esprit visible et d'esprit invisible. C'est-à-dire qu'il y a des interactions incessantes entre l'invisible et le visible sous la forme d'esprit, disons, d'esprit considérable ou d'esprit petit, mais qui sont agissants sans cesse. Pour faire cette interview, nous sommes deux dans cette salle, mais en pensée animiste, nous ne sommes pas deux, nous sommes 7, nous sommes 12, parce qu'il y a nos ancêtres, parce qu'il y a l'esprit qui veille sur le vent de Glandas, qui vient avec nous, qui se sent aspiré par ce que nous sommes en train de dire, et qui est présent. L'animisme, c'est une prolifération de l'énergie du monde sous la forme d'esprit. Alors, cette prolifération, elle peut être dangereuse. Ce n'est pas respectueuse. Mais pour éviter les dangers, l'animisme élabore de très nombreux rites. Parmi les rites les plus importants, il y a le poème, c'est-à-dire la formule incantatoire, la litanie, qui invoque l'esprit, qui apaise l'esprit, qui met en amitié, en syntonie l'esprit, le djinn, quelquefois on dit comme ça, avec nous. Dans le vaudou, c'est ce qu'on appelle les lois. Et nous sommes en relation, une pensée animiste dit que nous sommes sans arrêt en relation avec des forces invisibles, spirituelles ou matérielles aussi. Mais vous savez, pour les Grecs et les Romains, on parle de polythéisme. C'est exactement la même chose. C'est de l'animisme. Bon, il a ce mot qui les ennoblit, mais le processus, anthropologiquement parlant, en histoire des civilisations, c'est exactement la même chose.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Vous proposerez deux expositions, celle de Chati Ondiwa, où vous proposerez principalement des poèmes calligraphiés.
Les poèmes calligraphiés sont sur des modalités qui sont tout à fait spécifiques. J'ai évoqué tout à l'heure les très grands formats, les calligraphies de 215 de haut sur 60, qui nécessitent de grands espaces pour être présentés. J'aime beaucoup les présenter. Et c'est plus légitime aussi, je dirais, de les présenter avec des musiciens, parce que les musiciens soutiennent l'incantation des poèmes. Il y a comme une dramaturgie échillienne, je dirais, dans la présentation de ces œuvres, comme on dit maintenant, dans la restitution de ces œuvres. Mais je présenterai également des œuvres que j'ai faites, plus difficiles à faire, en raison des conditions météorologiques, des conditions de la montagne, sur des grands dépliants chinois. Le plus grand que je présenterai a un format déplié. Ce sont des dépliants à 24 volets. Et celui-là, entièrement déplié, fait 35,5 cm de haut par 6 mètres. Mais l'acte de le déplier est un acte rituel aussi, un acte qui est beau, je pense. Et je le lis en le dépliant et je montrerai ça aux amis de Châtillon et de Die qui se réuniront le vendredi soir. On se réunira tous pour ça là-bas. Excusez-moi, je présenterai également des petits formats, beaucoup plus usuels en bibliophilie.
Il y a ce pliage hein, pour assembler ses œuvres. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de dérouler aussi les rouleaux? Est-ce que ça, c'est un travail que vous avez abordé également?
Non, les rouleaux, à la manière des extraordinaires rouleaux japonais ou chinois aussi, mais ceux qui sont tellement beaux, qui sont présentés au musée Guimet actuellement, inspirés par le Didi du Genji, par la grande épopée japonaise, je ne pratique pas cela. Je pratique le pli. Et c'est venu comme ça. Et... Ah oui, bien sûr, je peux vous dire pourquoi je me suis installé dans ce format et cette coutume. C'est que quand j'étais dans le désert, et de même quand je vais maintenant sur Glandas, ou un endroit que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aller au bout de la moraine du Glacier Noir, à côté de Valouise, à Briançon. Là, on est à 2007, au pied des sommets de 4000 mètres. Donc j'y vais, dès que c'est déneigé, j'y vais. Mais tout le matériel doit tenir dans le sac à dos, sans être abîmé. Il y a des heures de marche pour faire tout ça. Et il est nécessaire que le format maximum qui entre dans le sac à dos plié détermine le format de l'œuvre, et plutôt de chaque volet de l'œuvre. Sauf les très grandes calligraphies que je disais tout à l'heure, sur un tissu... sur un papier très robuste que je roule par-dessus le sac à dos. C'est le seul roulement, le seul roulé que je pratique actuellement. Le pli convient beaucoup mieux. Et le pli induit du sens.
Le pli est déterminé antérieurement à la couleur, au texte, ou alors il vient ensuite?
Le pli est fait d'abord. Et les très grands dépliants chinois, qu'on appelle des leporello, qui viennent de Chine, qui sont vraiment des supports extraordinaires, très beaux, très sensibles, au pinceau, à la plume, au lavis, à l'acrylique, sont pensés et vécus et inspirants par le pli. C'est-à-dire que le pli, c'est une reprise de souffle. Le pli, c'est un pied dans un décasyllabe. C'est une syllabe, justement. Ou c'est une strate du plissement géologique de la roche sédimentaire. Et donc je dispose le support au sol complètement, et le pinceau, évidemment, accroche ou n'accroche pas avec le pli, et le pli lui-même induit du vide ou du plein. Provoque non pas de l'accident, mais provoque de la rythmicité. Et cette rythmicité, elle est très intéressante, elle est créatrice. Et ce n'est pas moi qui crée tout, je ne suis pas un poète démiurge, ni un calligraphe démiurge du tout, je suis à l'écoute du lieu, je suis simplement le scribe de la montagne, ou on peut employer également cette métaphore, je suis le sismographe de la montagne.
On suce des traces de brosse, de pinceau, il existe des figures maintenant de collage, en quelque sorte, de découpe, ça amène quelle dimension selon vous?
Le collage, d'abord plastiquement, il induit une certaine distance, une certaine profondeur sur le support, parce qu'on voit tout de suite que c'est un autre matériau et que le caractère abrupt sur ses côtés, bâti de la rupture, bâti d'une surabondance de plis, en quelque sorte, dans le matériau lui-même. Mais les collages que je préfère pratiquer, dont je prévois bien de montrer certains à Châtillon, sont des collages d'un document extraordinaire, vraiment extraordinaire, très profondément humain et qui est donné par le lieu ici. Je cherchais ça évidemment, mais j'ai eu la joie immense de trouver chez un brocanteur à Creil il y a quelques années des cahiers de comptabilité d'un grossiste en charbon de bois de 1900, et qui étaient les charbonniers apportaient leur bois brûlé, préparé au four lent dans la montagne, chez Bru, à la quincaillerie Bru, que les vieux d'Iwa et les vieux crestois connaissent tous. Et puis cette quincaillerie est finie depuis longtemps. Ces cahiers de comptabilité de 1900, des grands cahiers de comptes comme ça, à la plume, tenus à la plume, avec une écriture brune, disent les dates, les poids, les commandes, et disent la circulation de toute cette... De tout cet élément d'énergie pour brûler la nourriture, pour chauffer la maison en 1900, qui n'était acheté que par les gens riches de la région. Donc, comment dire, c'est un document humain chargé d'une humanité en souffrance et en autoritarisme et en dureté. Mais Là où c'est encore plus intéressant, c'est que, et plus tragique, mais moi je respecte infiniment cette tragédie et cette beauté humaine qu'il y a dans ces éléments de collage, c'est que les charbonniers qui étaient dans la montagne, vers Belmotte, vers le Pilon, dans des endroits comme ça, et quand on se promène dans la montagne, quand on va doucement, on voit très bien les fourlans encore dans les forêts et à la limite des alpages vers Djibouti, dans des coins comme ça. Les charbonniers qui étaient là, c'était les travailleurs immigrés de l'époque. Et les travailleurs immigrés de l'époque, c'était des Italiens. Et ces Italiens qui venaient là, ils venaient pour des mois depuis le Piémont. Ils étaient traités comme des immigrés dangereux, évidemment. Il fallait se méfier d'eux. Ils étaient sales, ils étaient tout noirs. Ils vivaient des mois et des mois noirs de cendres et de saleté, probablement, de débris de feuilles mortes, de toutes sortes de choses. Noirs de la fumée du fourlan. Et ils envoyaient la moitié de leurs revenus à leur famille dans le Piémont. Et ce qui fait que le collage que je fais avec les éléments que je découpe dans les cahiers de compte de charbonniers de 1900 sont d'extraordinaires palimpsestes de la dignité humaine, de l'effort humain que la montagne permet, donne, protège, avec toutes sortes de tensions aussi. Et j'aime beaucoup que le collage soit celui des charbonniers, des charbonniers italiens, parce que ils ont été des destructeurs de bois en le mettant en charbon, mais en même temps, ils ont été des constructeurs de leur famille et de l'âme et de la dignité de leur famille. Et le grossiste a créé la famille Bru, les exploitait, mais en même temps, ils se rendaient bien compte qu'ils dépendaient de ces travailleurs immigrés extraordinaires. Et les immigrations ne cessent pas. On a la chance d'avoir des immigrés extraordinaires parmi nous maintenant, qui sont des gens d'un courage, qui sont des véritables héros, et leurs prédécesseurs sont dans les collages.
Ce sont quelles techniques de...
La couleur, c'est de l'acrylique, c'est dont l'acrylique. L'avantage est que ça sèche très vite dès qu'il y a du soleil, de l'acrylique plus ou moins dilué. Les formes noires sont faites à l'encre de Chine pure, et quand c'est du gris, c'est de l'encre de Chine diluée, c'est du lavis. Et l'écriture, elle est ou au lavis très dilué, ou avec un petit stylo d'encre de Chine que j'utilise selon les nécessités du poème.
Vous avez parcouru un peu le monde également ?
Une petite partie, mais oui.
Une petite partie, mais oui. Vous étiez aussi peut-être à la recherche de ce moyen de transmettre par le graphisme, l'écriture. Est-ce que pour vous aussi, c'est la recherche d'une synthèse qui puisse être universelle ?
Ah, ça, c'est une question difficile, parce que je suis toujours à la recherche de l'énergie de l'humanité en construction, où que ce soit, dans un car ici, dans un bar à 10, où je trouve, quoi qu'il en soit, toujours une beauté humaine qui se cherche. Est-ce que la beauté humaine que je cherche, à laquelle je crois absolument, produite par les charbonniers dans la forêt, là-haut, produite par chacun d'entre nous, est-ce que la beauté humaine a la même forme partout ? Ça, c'est pas sûr du tout. Cette universalité d'un concept de beauté a des présupposés auxquels je n'adhère pas forcément. Les gens de foi orthodoxe mettent beaucoup en avant dans l'icône, dans les fresques des chapelles orthodoxes extraordinaires, ce concept du mouvement de Dieu vers lui-même dans la création par le travail de la beauté. Mais c'est une pensée qui a sa cohérence dans une civilisation, dans une religion. Or, les gens avec lesquels j'ai travaillé dans le désert, dans le sud du Sahara, n'avaient rien à voir avec l'orthodoxie. Ils étaient animistes. Et les orthodoxes disent que... Souvent, les orthodoxes disent que les animistes sont des gens manipulés par le diable. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Où trouver une universalité là-dedans ? Par contre, je la postule, je la cherche. C'est évident. Je ne crois pas qu'elle existe, mais je fais tout pour que cette humanité en acte et en dialogue, en énergie d'écoute et de dialogue, et finalement de parole, se pratique le plus possible.
Vous parlez donc d'une réflexion avant d'appliquer la couleur sur une feuille. Ça prend des temps très variables, j'imagine. Ça peut être spontané, comme ça peut être plus long avec comment on appelle ça, une construction, une élaboration en fonction de ce, que vous voulez transcrire ?
Ça n'est jamais spontané. C'est-à-dire que je suis toujours à l'écoute de quoi que ce soit. Et juste avant que j'entre ici au siège de votre radio, une pie a traversé le ciel, à la limite des toits, comme une espèce de fusée de détresse, ou de joie, ou de jubilation, ou de peur de l'arrivée de la nuit. Mais j'ai entendu, ben voilà, je viens de le dire, j'ai entendu le chant de la pie et le poème de la pie précipité. Bon, je suis toujours à l'écoute. Et je pense que la parole, puisque c'est le signe, la signature de l'espèce humaine, la parole est toujours en acte et toujours à la recherche d'elle-même, y compris dans sa relation avec ce qui peut paraître le plus abstrait, le plus lointain, la masse minérale de la montagne. Mais la masse minérale de la montagne, au temps géologique très long, c'est une métaphore permanente du destin, du travail de Sisyphe, du travail de la lutte de Prométhée pour libérer l'humanité de ses entraves, ce qu'il fait magnifiquement. Et donc je suis toujours à l'écoute, toujours. Et alors, lorsque je sais que les conditions sont bonnes pour aller au bout de la moraine du glacier noir, qu'il y a suffisamment de déneigement, qu'il n'y a pas de tempête, que la météo est bonne, parce que j'ai besoin d'une très large journée pour créer ces œuvres-là, et pour que ça sèche au soleil avant que je les redescende sur ou dans mon sac à dos. Lorsque je vois que les conditions sont bonnes, j'y vais, mais je me prépare plusieurs jours à l'avance. Et c'est-à-dire que je vais à tel lieu que j'ai identifié ou que je connais déjà, en pensant déjà à... Qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui, ce lieu que j'admire et que j'écoute, et qui m'apprend tellement de choses ? J'y vais, je me prépare, la montée c'est plusieurs heures, et pendant les heures, avec le rythme de la marche, le rythme du souffle, le rythme du cœur, se met en place progressivement une sorte de litanie poétique, de psalmodie poétique, qui serait beaucoup trop longue, qui serait répétitive. Et lorsque je pose le matériel au sol, je prépare les couleurs, je prépare mes pinceaux, etc., à ce moment-là, il y a une sorte de... après la préparation rituelle, en quelque sorte, à ce moment-là, il y a une entrée en acte. Il y a une entrée en scène du petit personnage que je suis dans l'immensité du cercle glaciaire ou du cercle des parois. Ce n'est pas spontané, c'est libre comme création parce que je me mets à l'écoute de cette diction très forte que le lieu propose toujours.
Est-ce que vous faites table rase de toute la culture dont vous êtes porteur pour accomplir ces travaux à ce moment-là ?
La culture occidentale, je n'en fais pas table rase, j'espère la connaître, mais je fais très attention à elle, mais je me reconnais des filiations quand même. Et alors que ma pratique est un petit peu inhabituelle, ou même très inhabituelle, mais mes grandes filiations poétiques, loin de ce que je fais, mais quand même, la première de toutes, c'est René Char, qui était un arpenteur de nos montagnes, à peine au sud d'ici, au sud de Diolfi, et un grand résistant, ce que je suis fondamentalement dans mes choix et ma manière d'être. Mais la particularité de René Char, ce qui m'éloigne de lui, c'est son écriture par la fulgurance. Alors que moi, je suis plutôt dans la pratique rythmée d'un texte qui va avancer progressivement. J'admire énormément le poète grec Elitis, Odysseas Elitis, un prix Nobel avec lequel j'étais en contact d'ailleurs, qui est mort il y a une vingtaine d'années, qui a le souffle épique dans l'atmosphère, disons, et le pittoresque de la Méditerranée orientale. Mais il a le souffle épique. Et hors Europe, il y a des formes de poésie qui correspondent à tout ce que je raconte, que non pas je lis, mais que j'écoute, parce que c'est plutôt du chant psalmodie à ce moment-là. En Corée, des formes extraordinaires, une forme de toute beauté qui s'appelle le gagaku, que j'écoute vraiment très souvent. Et en musique contemporaine aussi. Je fais l'éloge absolu.
Un titre ?
Le titre, c'est le Il Prometeo, Tragedia dell'Ascolto. C'est-à-dire, c'est le texte d'Eschyle, repris, ce titre italien, c'est Prométhée, tragédie de l'écoute, par Luigi Nono. Voilà, c'est une œuvre qui paraît statique, mais dans laquelle l'humanité, avec un ensemble de chœurs féminins essentiellement, dialogue avec Prométhée, une voix très grave, et portée par une clarinette contrebasse, ouvre ce dialogue de la liberté absolue de l'humanité en espace. D'ailleurs, cette œuvre est redonnée à Venise, à la Biennale de Venise, la semaine prochaine. Donc, je suis invité pour participer à tout ça là-bas, mais c'est trop loin. Puis il y a l'exposition de Châtillon, c'est plus important pour moi.
D'ailleurs, l'italien, vous le connaissez, puisque vous avez opéré des traductions aussi
en édition. Traduit. Je suis traduit.
Mais inverse aussi. L'inverse aussi, vous traduisez.
Vrai, oui.
J'ai lu ça sur certains de vos sites. Il y a une autre chose aussi, je voulais revenir sur René Char, que j'ai tenté de lire, mais très difficile à saisir, à comprendre. Est-ce que, d'après vous, il existe une certaine magie, ou comment dire, une règle pour comprendre un peu sa poésie ?
Ah, ça, c'est une question difficile, parce que ça dépend du tempérament de chacun, bien sûr. Mais je pense que pour entrer dans son univers et son mode de pensée d'homme abrupt et coléreux, il faut commencer par les textes simples, plus simples. Les deux textes simples que je recommanderais, c'est le premier, c'est le grand texte de la Résistance. C'est son journal de Résistance qu'il a intitulé « Les feuillets d'hypnose ». Parce que ce sont des notes au jour le jour dans les embuscades, dans les pièges dans lesquels il tombe à la tête de ses combattants, de ses résistants. Il dirigeait un grand maquis du côté de Apt. Et il y a, je me rappelle plus, 250 tout petit chapitre de paragraphes dans les feuillets d'hypnose. Certains sont des faits concrets, mais avec une écriture de la volonté, de l'indépendance, de la liberté, sans aucun chichi littéraire. Et certains de ces paragraphes sont des réflexions, une prise de distance. Donc les feuillets d'hypnose, c'est une œuvre extraordinaire. Je dois dire que je suis co-traducteur des feuillets d'hypnose en chinois. Je suis incapable de le faire en chinois, mais mon traducteur en chinois, je l'ai reçu à Die à plusieurs reprises, et il avait comme projet de traduire ça en Chine, ça n'avait jamais été traduit, donc on a passé plusieurs années à mettre en place cela. Donc le feuillet d'hypnose, je le recommande absolument. Mais il y a un autre cycle de poèmes de Char qui est très beau, qui est la Lettera Amorosa. Lettera Amorosa. La lettre amoureuse, c'est un titre de Monteverdi, en fait. Si on a la chance de voir ça, Charles a édité avec 27 lithographies de Georges Braque, et c'est vraiment une très très belle œuvre. Et le mouvement amoureux, l'élan amoureux dans l'espace de la Provence, dans l'espace de nos montagnes calcaires, passe merveilleusement de manière assez limpide dans la Lettera Amorosa.
Je reviens sur l'exposition du vendredi 2 février. Là, vous présenterez effectivement cette œuvre en pliage qui fait 7,50 m, je crois.
Celle-là, elle fait 6 mètres.
6 mètres. Oui. Et ça se passera à la salle des mariages de la mairie de Châtillon, en Diwa. Vous avez aussi des sites, des blogs. Est-ce que vous pourriez nous indiquer adresses,
oui,
peut-être ?
Je me permets d'indiquer le blog que des étudiants m'ont fait il y a une dizaine d'années, et puis bon, que finalement j'ai appris à gérer moi-même avec une amie, et sur lequel je tiens le compte-rendu régulier du travail en espace, de la création en espace dont nous avons parlé. Il s'appelle Carnet de la langue espace, de la langue tirée espace. Mais si sur Google ou sur un moteur de recherche, on donne mon nom, éventuellement en plus, on va le voir apparaître tout de suite.
Oui, je mettrai les liens aussi sur le texte de l'émission. Au niveau de l'image, de ce qui est représenté, moi ça me fait penser, et actuellement il y a une expo à Paris, de Quite Oblie.
Ah oui,
oui, qui commence, j'ai entendu ça sur France Culture. Elle a lieu en ce moment, là. Donc,
Merci de l'information. J'admire Twombly.
Oui, et justement, je voulais savoir, il y avait une émission là-dessus qui parlait de ce sujet, et lui, c'est pareil, il y a une tentative d'être, pouvoir être compris au niveau universel dans ses propositions. Est-ce que, c'est pour ça que j'ai posé cette question tout à l'heure sur l'universalité des signes, de l'écriture.
Oui, il y a des tentatives, mais je ne crois pas qu'elles atteignent une universalité quand même. Mais en ce qui concerne Twombly n'est pas écrivain. C'est un peintre fabuleux qui prend des graffitis qu'il trouve extrêmement beaux et qu'il recopie, qu'il a identifié, qu'il a vu et admiré sur les murs de Rome. Mais je suis plus, en ce qui concerne le travail graphique et poétique, plus intéressé par la démarche de Ethel Adnan. que tout d'un coup on découvre en France, qui est morte tout récemment, qui a fait des très grands Leporello, comme je fais, des dépliants chinois, avec ses poèmes, des poèmes dynamiques, des poèmes volontiers longs, mais que sur les 24 volets du dépliant chinois, elle articule avec des gestes graphiques spécifiques à chaque poème. Je trouve que c'est une démarche intéressante. Il y a une autre démarche de plasticien récent que je trouve tout à fait intéressante, c'est celle de Christian D'Autremont dans le groupe Cobra, donc il est mort il y a longtemps. Pendant longtemps, je croyais que c'était simplement ce qu'il a appelé ses logogrammes, je croyais que c'était simplement des gestes à l'encre de Chine, inclinés, comme l'inclinaison de notre écriture file vers la droite, incliné vers la droite, avec une atmosphère particulière. Mais en fait, ce sont des textes précis qu'il calligraphie à sa manière, d'une manière assez peu lisible, mais si on prend vraiment le temps de les lire, on voit l'émotion, le souffle, la rythmicité du poumon qui dit ce texte. Ce texte, en général, c'est très souvent le sien, il n'était pas vraiment poète, il était plus plasticien. Il y en a un autre qui est fort intéressant dans la relation entre la poésie et la peinture, c'est Henri Michaux. Mais Henri Michaux a été ou l'un ou l'autre. Et il n'a pas d'œuvre, sauf un livre, Épreuve exorcisme. Il n'a pas il a eu des phases de plasticien et des phases de poète. Mais être ambidextre, il ne l'a pas vraiment pratiqué. Mais je pense que c'est un tâtonnement que nous cherchons tous, parce qu'il dépasse la rationalité de l'écriture qui contrôle. Et il bouscule. Et dans le bousculement surgit énormément de sens.
Une question qui me vient aussi dans cette manière de proposer une image ou un texte, ce sont les tags qu'on peut voir aussi dans nos rues. Est-ce qu'il y a une concomitance dans...
Il y a certainement une concomitance.
Il y a quelque chose de primordial même, en
oui.
quelque sorte.
Je suis toujours très attentif aux tags et je me pose plein de questions sur eux, et je les admire. Souvent, je les admire. S'il y a une graphie avec un tempérament, si ce n'est pas une écriture mollassonne ou du jeter trop vite, ce qu'on a sur les murs, a dit ici, manque parfois de présence formelle d'une main qui a du caractère. C'est écrit d'une écriture molle, je trouve. Il y a un problème avec certains des tags sur les murs ici, c'est que les mots qui sont composés, les phrases qui sont composées sont des phrases faibles. Il y a un passage à vide, il y a quelque chose. Celui qui est dans l'avenue qui descend vers la gare, là, je ris, non, je bois le ciel qui est dans tes yeux. Quelque chose comme ça, mais un petit peu plus long. Mais pourquoi qui est dans tes yeux? Le verbe être, il est pauvre. Vous savez, Baudelaire dit exactement la même chose dans le poème qu'il intitule à une passante. Et moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dont ton œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Vous vous rendez compte de la différence? C'est-à-dire que, bon, tout le monde ne peut pas être Baudelaire, évidemment, mais de la même métaphore de la contemplation du regard de la personne aimée, passer d'un verbe être qui est tout plat à une métaphore qui est en travail, qui est difficile, qui est beaucoup plus riche. Quel dommage que la personne qui a fait ce tag là-bas n'ait pas lu ce Baudelaire, c'est dommage. Bon, en ce qui concerne les tags, j'ai un gros problème avec les tags quand même, parce que les tags au bord des voies ferrées et au bord des lignes de RER, de métro, etc., ils sont admirables du point de vue plastique, je trouve, avec un style qui est vraiment très fort. D'autant plus que les lettres sont de la taille d'un corps humain, la plupart du temps. Et donc ce sont des lettres corps, des lettres mannequins, des lettres silhouettes, en quelque sorte. Mais ils sont, la plupart du temps, illisibles. Et c'est-à-dire que le tag, à ce moment-là, il devient le signe d'un groupe replié sur lui-même qui ne communique pas avec les autres groupes ni avec les voyageurs du métro ou du RER. Ce sont des objets de compétition entre groupes de taggeurs. Et ça, je trouve ça très dommage, parce que ce sont des graphismes qui ont un sens plastique tellement fort dans cet usage de la lettre à taille humaine qu'ils pourraient faire des choses, je crois, mais beaucoup plus belles.
Une sorte de rhétorique.
Ils pourraient aboutir à une rhétorique très théâtrale, d'une dramaturgie contemporaine le long des rails, le long du métal, et malheureusement, ça se bloque. Et bon, j'espère que ça va se débloquer.
dans la durée de la civilisation, le tag a quelques décennies seulement. Donc il a encore toutes ses possibilités de se développer, de s'enrichir. L'émission arrive à sa fin. En tout cas, je vous remercie Yves Bergeret d'être venu nous présenter ces deux expositions que vous proposez donc à Châtillon-en-Diois. Celle du 30 janvier au 4 février, ça sera à la bibliothèque de Châtillon. Et la seconde, le vendredi 2 février, avec cette exposition à la salle des mariages de la mairie. Il y a un site internet, on en a parlé, je mettrai les liens. Les horaires aussi sont de 16h à 18h le mardi, le mercredi de 14h à 16h, les vendredis et dimanches de 10h30 à midi.
Merci à vous, merci à vous. Je serais très heureux que nous puissions continuer à parler.
N'hésitez pas à repasser, oui.
Ah, mais avec les œuvres dans l'exposition, dans la salle des mariages là-bas à Châtillon. Si. Je pense que l'acte de parole orale est un acte très, très important.
D'ailleurs, il y aura quelques poèmes de vous aussi. Ah, vous en clamerez d'autres ?
Oui, oui.
D'accord.
Oui, oui, absolument.
Très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
À vous aussi, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.